Alors, pour parler du Mexique, on avait invité René Coulon. René Coulon est un Français, mais qui vit au Mexique depuis très longtemps. Et c'est un sociologue urbaniste et qui a été en responsabilité au sein de la ville de Mexico dans un organisme qui s'appelait Fideicomiso du Centre historique. Mais René Coulon a eu un problème de santé, il a dû être hospitalisé, il pensait pouvoir être là et finalement il n'a pas pu être là. Donc j'ai essayé d'improviser une présentation pour que le Mexique soit présent. Alors il se trouve que moi j'ai travaillé au Mexique il y a quelques années sur cette question-là et que je rentre du Mexique où j'ai pu essayer de vérifier un certain nombre d'hypothèses. Donc certains éléments, d'abord commencer par trouver le bon bouton. Par quelques éléments de contexte. Très rapidement, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle des villes mexicaines, hein, on parle des villes produites par la colonisation espagnole, une certaine homogénéité des centres-villes créés par cette colonisation espagnole en termes de tracé. Ce qu'on appelle la traça, c'est un tracé orthogonal, une organisation autour d'une place centrale. Des processus urbains qui sont assez similaires selon les tailles de ville, avec le départ des classes aisées à partir du début du 20e siècle ou de la fin du 19e suivant les villes, la paupérisation de certains quartiers, une perte de population. Jusque dans les années 80, le fonctionnement d'un certain nombre de services pour l'ensemble de l'agglomération au centre-ville, donc à partir des années 80, l'expulsion du centre des activités de commerce de gros, du transport par autobus, recomposition commerciale à l'échelle de l'agglomération, spécialisation commerciale à certains quartiers, mais en même temps le maintien des activités politiques, culturelles et d'éducation dans le centre des villes, en particulier dans les villes de province. Mais c'est aussi le cas à Mexico, puisque le président de la République et le palais du président est sur la place centrale de la ville de Mexico. Donc il y a symboliquement une très forte centralisation, malgré les difficultés. Et puis un débat sur une impossible et attendue gentrification, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de retour au centre, même si on a des valorisations commerciales et touristiques dans certains contextes. Donc ça, c'est juste quelques éléments de contexte pour marquer les spécificités des contextes dans lesquels on va parler de patrimoine. Donc une politique de patrimoine, je ne détaillerai pas, avec des antécédents au XIXe siècle, mais surtout donc la création de deux organismes. En 1939, un organisme s'appelait l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, dont on verra les fonctions ensuite. Et en 1946, un Institut des beaux-arts et littérature. Et puis en 1972, une loi fédérale des monuments, mais surtout qui est une loi fédérale qui introduit la possibilité de zones de monuments, hein, de zones archéologiques, artistiques et historiques, où on passe là de la protection du monument à la protection de zones. Donc ce qui se produit à partir de 1972, c'est la fédération qui construit un cadre d'intervention, mais en fait c'est surtout une recentralisation de la politique du patrimoine. J'avais pu travailler il y a quelques années sur les antécédents locaux de cette loi de 1972, c'est-à-dire que dans les années 30 et 40, il y a des lois locales de protection du patrimoine. On a dans certaines villes, en particulier à Morelia, mais aussi à Guadalajara, mais dans d'autres des villes dans lesquelles les capitales des États sont des villes coloniales, des antécédents à cette loi, et avec à l'époque une fédération peu présente, sauf sur le patrimoine archéologique, et en 1972, une loi qui s'appelle une loi fédérale, c'est-à-dire une loi qui détermine les actions de la fédération, qui va confier la protection du patrimoine à l'INAH, qui a la compétence donc sur les monuments archéologiques et historiques, mais aussi sur le catalogage, enfin sur l'identification, même si on a ici un lien direct entre l'inventaire et la protection. Donc l'ensemble des biens immeubles historiques du XVIe au XXe siècle, soit approximativement 120 000 monuments qui sont tous théoriquement protégés, même si, enfin ils sont protégés s'il leur arrive quelque chose, ça ne veut pas dire que le catalogue est totalement terminé. En pratique, toutes les constructions anciennes, c'est-à-dire avant le XXe siècle, peuvent être protégées, même si la loi insiste essentiellement sur une valeur historique, c'est-à-dire le fait qu'il s'est passé quelque chose en termes d'histoire de la nation dans la ville, Et donc, d'ailleurs, les déclarations de zones de monuments insistent sur les apports de la vie à l'histoire nationale, soit à l'indépendance, soit à la révolution, avec une sorte de double jeu, puisqu'on a des villes coloniales construites par la colonisation hispanique qui sont protégées au titre d'avoir joué un rôle pendant la révolution ou l'accès à l'indépendance. Donc il y a à chaque fois cette double rhétorique qui est présente. L'INA donc est responsable de la limitation et la protection des zones de monuments historiques, mais aussi du contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de ces zones. Et l'IMBA a théoriquement en charge la protection des biens du XXe siècle, sauf certains monuments qui auraient une valeur historique qui sont confiés à l'INA. Mais en même temps, l'IMBA est très peu présente en termes administratifs en dehors de la ville de Mexico. Ce n'est pas le cas de l'INA, puisqu'elle n'a identifié que 18 000 immeubles, dont 11 000 dans la ville de Mexico, et une très faible capacité d'intervention de l'IMBA en dehors de la ville de Mexico. Alors, on a cette séparation-là. Alors, à l'inverse, l'INA a une compétence importante, et y compris une compétence qui va jusqu'à la possibilité d'intervenir directement pour fermer des travaux. Donc ici, il y a un exemple pour arrêter des travaux, pour clôturer des travaux. Donc ici, il y a travaux suspended, qui ne respectent pas donc les autorisations de démolir ou de construire, qui, dans les zones de monuments historiques ou sur les monuments, dépendent directement de cet organisme. Donc un organisme qui a un pouvoir important, ce n'est pas le cas de l'IMBA. Donc ce dispositif met en place et produit un nouveau type d'espace qu'on appelle les centres historiques, ici, dans ce contexte-là, puisqu'on a 57 zones de monuments protégées par l'INA, mais avec la caractéristique d'être des zones assez amples, puisque c'est en gros l'intégralité de la ville du 19e qui est protégée, souvent avec une zone A et une zone B, donc l'ensemble des centres-villes. 57 zones de monuments aujourd'hui déclarées donc, par la Fédération, sur un total de 90. À partir des années 90, on a une sorte de frein à la généralisation de ces zones de monuments, en particulier sur la base de résistance locale, dans certains cas, mais aussi sur la base de procédures de dérégulation, puisque mise en place dans le cadre des accords internationaux au Mexique, on a une politique prise par le ministère de l'Économie contre ce qui est appelé les régulations excessives, qui en fait visent à demander à toutes les nouvelles régulations territoriales de remplir une manifestation d'impact régulatoire, mais ça veut dire concrètement obtenir l'accord de l'ensemble des porteurs d'intérêts locaux, c'est-à-dire des chambres de commerce, des chambres d'industrie, des pouvoirs locaux, avant de construire une nouvelle zone de protection du patrimoine ou d'ailleurs une nouvelle aire protégée au titre de l'environnement. Donc là, avec cette idée qu'il y aurait trop de régulation et qu'on devrait limiter la multiplication de la régulation au titre du patrimoine. Donc l'INA a dans ses placards une série de zones qui n'ont pas pu être adoptées réellement, même si les études sont réalisées à cause de cette difficulté. L'IMBA n'est pas du tout... Donc l'INA est implantée dans tous les États fédérés, exerce un vrai contrôle avec des architectes sur... les permis de construire, de démolir et différentes formes d'intervention sur les monuments. Dans un grand nombre de pays, d'ailleurs, cette intervention patrimoniale est antécédente à l'intervention liée au plan de développement urbain. Il y a plus de capacité de l'INA d'intervenir pour autoriser des permis que des municipalités. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Ce n'est pas le cas de l'IMBA, puisque l'IMBA reste essentiellement un organisme d'études présent dans la ville de Mexico, qui, dans certains cas, catalogue, mais qui intervient très peu et qui n'a pas cette capacité d'intervenir sur le terrain. Cette politique s'est traduite aussi par la reconnaissance donc, de la qualité patrimoniale de 10 centres historiques de villes mexicaines qui sont donc inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, en général sur l'intégralité de la zone qui est celle de la zone de monuments historiques. Juste pour mémoire, ici, la zone fédérale donc, de monuments historiques de la ville de Mexico, avec une zone A et une zone B, et l'ensemble des monuments identifiés et protégée, donc on voit bien qu'une zone B qui est un extérieur. et avec moins de monuments présents. Et puis, cette spécificité, cette carte historique qui représente la ville de Mexico au XIXe siècle et qui marque la spécificité de l'organisation des villes latino-américaines et mexicaines, avec un centre organisé sous une forme donc d'un tracé régulier, et puis autour ce qu'on appelle les barrios, qui à l'époque étaient des barrios indigènes, mais qui sont devenus ensuite des quartiers populaires, qui présentent une traça moins précise. Et ce que vont faire les zones de protection du patrimoine, c'est unifier ces deux types d'espaces dans un nouveau centre historique et introduire une protection du patrimoine, y compris dans les barrios et dans les quartiers populaires, ce qui se traduit par un certain nombre de difficultés à mettre en place une politique urbaine sur ces espaces, puisque on reviendra sur cette question-là. L'INA intervient sur la question des démolitions, mais ne met pas en place une politique d'amélioration du logement. Et c'est effectivement quelque chose qui est peu présent. Donc ça, c'est le centre de la ville de Puebla, juste pour marquer cette idée que la protection des centres-villes, c'est aussi la protection de l'intégralité de la traça, donc ce tracé dont on maintient historique, dont on maintient à la fois sur le plan et puis en termes d'image urbaine. Ça veut dire une intervention, y compris sur des ajouts qui avaient été faits dans les monuments et qui ensuite sont enlevés. Donc les effets de cette... sur la planification urbaine, avant de parler des effets sur les centres-villes, on est dans un contexte dans lequel donc, on a des zones de monuments qui sont soumis donc au contrôle de l'INA, mais ces espaces protégés et ces zones de monuments ne sont pas des documents de planification, donc elles ne sont pas exclues des périmètres des plans de développement urbain. Donc théoriquement, il doit y avoir sur les centres historiques un plan partiel de développement urbain qui est l'équivalent d'un plan d'urbanisme. La conservation des valeurs patrimoniales et culturelles donc apparaît comme un objectif de la planification globale. Mais la spécificité, c'est qu'on a une planification qui est confiée aux États, puisqu'on a donc on est dans une fédération avec des États fédérés qui peuvent avoir des lois, alors à l'intérieur d'un cadre, mais qui des lois qui peuvent mettre en place des éléments un peu différents, mais qui souvent autorisent la création de zones de conservation des centres qu'appelaient des centres de peuplement ou des aires urbaines patrimoniales à l'intérieur des plans partiels, mais qui peuvent se superposer avec ces zones de monuments. Et puis cette spécificité, donc depuis des réformes de l'article 115 de la Constitution en 1983, d'une planification urbaine qui incombe aux municipes, c'est-à-dire à l'équivalent des communes, qui sont en fait des grandes communes, puisqu'il y a au Mexique de l'ordre de 2500 municipes, mais qui ont souvent, en dehors des grandes villes, peu de capacité d'intervention directe, et qui présente d'ailleurs aussi la spécificité d'avoir des pouvoirs locaux élus pour 3 ans. Et on est dans un contexte dans lequel, depuis la Révolution mexicaine, un des dogmes du régime politique mexicain, c'est qu'il n'y a pas de réélection, puisque la Révolution mexicaine s'est faite contre un Porfirio Diaz qui se faisait réélire, donc il n'y a pas de réélection. Donc on a des maires qui sont là pour 3 ans et qui ne peuvent pas se faire réélire, et des gouverneurs d'État qui sont là pour 6 ans et qui ne peuvent pas se faire réélire non plus. Donc une grande instabilité du contexte local. Donc le rôle de ces plans partiels qui existent néanmoins, donc de développement urbain, en particulier dans la plupart des grandes villes, il s'intéresse essentiellement à ce qui est appelé l'image urbaine. Alors l'image urbaine, c'est le paysage urbain, en particulier donc ce paysage du tracé que je vous ai évoqué, donc en termes de perspective, de contrôle des hauteurs. On observe une sorte de déconnexion dans certains cas, en particulier dans les zones les plus importantes, entre les autorisations de construire et la planification urbaine, puisque une partie des autorisations de construire dépendent du contrôle de l'INA. Le rôle de la planification urbaine est plus important dans les zones B, là où il y a moins de monuments présents, ou dans la périphérie. En général, donc, ces plans partiels reprennent le statut des immeubles, limitent fortement les hauteurs, mais ce sont aussi des plans stratégiques qui propose des formes d'intervention selon les problématiques ou les questions des quartiers, en particulier des formes d'intervention sur les quartiers populaires, des plans stratégiques mettant en place des politiques, même si ces politiques ne verront d'ailleurs pas forcément le jour, mais en même temps, les débats autour des plans partiels sont plus des débats sur le devenir des sous-ensembles urbains que des débats sur le statut du sol. Alors, très vite les effets des politiques patrimoniales et des actions locales. Ça a été donc de mettre fin, et ça c'est un apport important néanmoins, à ce qui existait avant les années 70, c'est la fin des projets de rénovation urbaine, en particulier dans les quartiers populaires péricentraux, puisqu'il y avait une multiplication de tentatives de destruction de ces quartiers populaires péricentraux, ce qui ne peut plus être fait. Protection de l'intégrité de la traça, donc ce tracé de l'image urbaine, contrôle des façades, des annonces commerciales, création d'une image intégrée du centre-ville, une image en particulier par des interventions sur les façades, assez spectaculaire, homogénéité des couleurs, mobilier urbain, mais peu de protection de la qualité des paysages urbains en dehors des centres historiques ou des noyaux villageois intégrés au tissu urbain, puisqu'il y a peu de législation sur les tissus urbains. Et ça pose un certain nombre de questions. Alors, sur les enjeux et difficultés de ce cadre de fonctionnement, donc, on a bien des pouvoirs d'action de l'INA en termes de protection qui sont assez forts et, je pense, sans équivalent en Amérique latine, sauf peut-être, Eliana nous parlera du cas du Brésil. En termes d'interdiction de construire, néanmoins, il est difficile de lutter contre une partie des stratégies des propriétaires qui sont défaillants, en particulier des stratégies conduisant à laisser se dégrader les monuments, le faire des obligations d'intervenir, c'est des choses qui sont très très difficiles à mettre en œuvre, même si ça existe dans la législation. Pas de politique, et puis il n'y a pas de politique généralisée d'amélioration de l'habitat ancien au Mexique. On peut dire qu'en France, la dynamique urbaine des centres historiques, c'est la conjonction entre la politique du patrimoine et puis autre chose qui est une politique d'intervention sur l'amélioration de l'habitat ancien, qui n'est pas aux mains des autorités du patrimoine, mais qui ont très fortement modifié le tissu urbain des centres historiques. Cette politique de généralisation sur l'habitat ancien n'existe pas. Il y a des expérimentations d'intervention sur les vecindades, ce qui sont ces taudis centraux, et sur l'habitat dégradé, mais qui ont du mal à se généraliser, en dehors de quelques exemples importants, en particulier à Mexico, à la suite du tremblement de terre de 1985. Difficulté de protection des immeubles du XXe siècle, par défaillance de l'IMBA et aussi par forte pression immobilière sur les quartiers péricentraux dans certains contextes, et surtout le manque de stabilité des plans partiels de développement urbain qui dépendent des municipalités, qui souvent d'ailleurs ont peu de capacité pour les réaliser et peuvent être confiés à des organismes des États fédérés ou des prestataires privés. Un rôle important de la fédération et du ministère dans le cadrage par des financements pour la réalisation des plans ou par des dossiers types pour la réalisation de ces plans, mais en même temps l'identification d'opérations programmées qui supposeraient des interventions lourdes qui ne sont pas toujours financées, puisqu'elles doivent être financées par les pouvoirs locaux. Une question complexe qui est celle des relations entre les niveaux de pouvoir et avec les acteurs institutionnels et celle de la population, c'est-à-dire le fait d'avoir des plans qui seraient capables d'être aussi des instruments de concertation, de participation et de coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Alors, certaines tendances néanmoins qui existent, pas toutes récentes d'ailleurs, mais ces tendances que l'on peut retrouver à l'idée de l'institutionnalisation des centres historiques, c'est-à-dire la construction d'une entité administrative, para-administrative, ou fideicommisso, c'est une sorte de fideicommis qui regroupe des partenaires privés et des partenaires publics qui sont censés mettre en place des actions sur les centres historiques à l'échelle le plus souvent de ces zones de protection des monuments historiques. À Mexico, par exemple, il y a eu la création d'une autorité administrative du centre historique de Mexico, c'est-à-dire d'une sorte d'interlocuteur administratif direct sur le centre historique, différent de celui des délégations sur l'ensemble de l'espace, qui serait censé mettre en place une intervention plus coordonnée des différents services publics, une sorte de gestionnaire de centre-ville confié au pouvoir public. L'idée que ces instances doivent être des instruments de concertation entre les acteurs et surtout mettre en place une action qui ne soit pas limitée aux 3 ans du pouvoir municipal et permettre d'obtenir une certaine continuité. Donc, l'expérience de plans, il y a eu quelques expériences récentes de plans partiels participatifs, en particulier certains réalisés par un programme d'études de l'Université nationale qui s'appelait le PUEC, qui a donc fait une sorte d'études pilotes sur trois villes, impliquant un grand nombre de réunions en termes de concertation, de participation sur le devenir de la ville, etc. Mais même dans ce contexte-là, alors que l'ensemble des pouvoirs étaient d'accord pour entrer dans cette expérimentation, il n'y a qu'un seul des plans qui a vraiment été approuvé, à cause du changement de politique locale dans les deux autres villes. Une tentative d'introduire d'autres types de plans qui sont appelés des plans de gestion intégrés, un peu sur l'idée des plans de gestion du patrimoine mondial, mais pas confiés ici uniquement aux autorités qui s'intéressent à la question du patrimoine mondial, mais l'idée qu'on pourrait avoir un plan de gestion intégré promu par la fédération, mais adopté par les autorités locales, qui viendrait régler ces contradictions entre les différents ordres de pouvoir, même si il y a néanmoins le maintien de deux ordres de planification. Dans certains cas, même si ces plans aspirent à être une planification intégrée. Donc il y a eu quelques exemples financés par des crédits nationaux ou internationaux de plans pilotes, mais qui ont du mal à se généraliser. J'avais ici un cas qui avait été fait à Colima, qui est une ville moyenne avec une zone de protection. Donc on voit ici un périmètre. Hein, ce qui est noté ici, c'est le périmètre d'action de ce plan, qui est un périmètre plus ample que la zone de monument historique, et l'idée d'un plan qui se veut participatif sur le devenir du centre-ville, dans des contextes où les centres-villes sont souvent dévalorisés, soumis à différentes dynamiques en termes de perte de population, d'insécurité, de difficultés de contrôle de certaines activités du type commerce ambulant ou commerce dit ambulant, qui sont des bancs de marché permanents dans l'espace public, fonctionnement des marchés centraux. Cette idée que les plans doivent être doivent mettre en place une forme de coordination entre les différents acteurs permanents. Donc, il ne s'agit pas de les lister ici, mais montrer simplement que sur les plans qui avaient été ceux du PUEC dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc il y a un grand nombre d'acteurs institutionnels présents, une société civile assez organisée, et en particulier donc que la planification urbaine dans le centre pose cette question d'intervenir dans un espace où il y a de nombreux intérêts, de nombreux usages, et que le rôle du plan, c'est la mise en coordination de ces différents acteurs, y compris d'ailleurs des fondations privées qui interviennent sur le centre. Donc un autre schéma sur le fonctionnement et la coordination cherchée, enfin la difficile coordination entre les différents acteurs dans le cadre des plans de gestion des centres historiques. Terminé par évoquer un outil qui existe qu'à Mexico, mais qui a été présenté à un moment comme une solution pour le centre historique de la ville de Mexico, c'est un dispositif qui s'appelle transfert de potentialité de développement des immeubles du centre historique. L'idée, c'est que la limitation de construire dans le centre historique fait que les immeubles du centre historique disposeraient d'un droit potentiel à construire qu'ils pourraient revendre et mettre sur le marché. Alors, pas n'importe où. Dans la ville, certains corridors de développement, enfin certains axes de développement ont été définis, le long en particulier d'avenues. Et donc là, sur ces avenues, on pouvait déjà construire des immeubles assez hauts. Les promoteurs peuvent acheter des droits de construire supérieurs à ce qui est autorisé au centre historique. Et l'argent est donné, c'est une chose intéressante à discuter, et l'argent est donc placé dans une sorte de fideicommisso ou directement investi sur un immeuble. Donc c'est à la fois une fiction, mais pas simplement une fiction. Hein, ça permet de dépasser des limites, de construire dans des zones de forte intensité. Théoriquement, ça permet de récupérer une partie de cette plus-value au profit du centre historique, au profit d'une valeur positive, entre guillemets. C'est un outil controversé néanmoins parce qu'il y a une assez grande opacité sur la façon dont ces montants sont négociés. Un exemple qui est souvent utilisé, c'est un immeuble qui a été construit, un immeuble d'une trentaine d'étages construit sur l'avenue Reforma, qui, je crois, a investi plus de 90 millions de dollars, qui a acheté le droit de monter deux étages supplémentaires. Et ils auraient payé moins de 1,5 million de pesos pour acheter ces droits de construire. Mais la justification de l'autorité du centre historique et de l'autorité de la ville, c'était que ça a été une négociation pour les obliger à venir sur cet endroit-là, qui est proche du centre, et non pas à aller dans un autre espace sur la périphérie. Donc on leur a pratiquement donné les droits de construire. Néanmoins, ça avait été présenté à un moment comme un outil qui existe donc depuis les années 90, mais qui est en perpétuel débat et renégociation sur cette question-là. Donc c'est théoriquement une idée intéressante sur cette fiction. Est-ce qu'il y a un droit de construire qui est limité par les limitations patrimoniales et qui pourrait donc être revendu. Alors, conclusion, pour aller vite, donc notez aussi qu'il y a eu plusieurs tentatives de décentralisation de la politique du patrimoine et des réformes de l'INA qui ont avorté pour différentes raisons, en particulier pour une très grande capacité de cet organisme à résister sur une base à la fois corporatiste, mais sur une base syndicale aussi. Et donc les personnels de l'INA, jusqu'ici, ont réussi à conserver leur prérogative avec une argumentation qui est un peu similaire à celle que nous avons en France sur l'ABF, hein, c'est-à-dire l'INA serait le seul moyen de protéger vraiment face aux intérêts locaux qui seraient de toute façon contraires au patrimoine. De nombreux conflits et controverses, j'ai pas le temps d'en parler ici, mais dans lequel les régulations patrimoniales réelles ou théoriques, c'est-à-dire celles présentes dans des plans qui ne sont pas forcément appliquées, peuvent être des outils pour des résidents qui cherchent à s'opposer à des projets, donc des outils symboliques ou réels. Dans de nombreux cas, l'INA et les personnels de l'INA sont alliés avec des résidents qui s'opposent à des projets portés par des promoteurs immobiliers ou des hommes politiques locaux. Donc certains pourraient dire qu'on pourrait ici voir une sorte de champ patrimonial dans lequel les autorités de l'INA, plus des associations, plus des résidents locaux résistent à des projets. On est dans un contexte quand même de dérégulation que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui donne plus de poids aux propriétaires ou aux promoteurs immobiliers pour remettre en cause l'acceptabilité des règles liées à l'urbanisme et au patrimoine, et donc la multiplication de formes aussi d'urbanisme dérogatoire avec ces zones. Alors, il y a d'autres types de dispositifs qui sont des polygones d'intervention qui permettent, dans certains contextes, de dépasser les limites placées par les plans partiels. Poids des pouvoirs financiers immobiliers sur les acteurs politiques locaux, qui fait que dans certains contextes, on a des hommes politiques locaux arrivés au gouvernement des États ayant la possibilité de faire des réformes des lois de l'urbanisme local qui interviennent ouvertement pour déréguler, et en considérant que l'objectif, c'est de déréguler, c'est-à-dire de réduire la capacité d'intervention des plans d'aménagement urbain, essentiellement, mais donc aussi de l'intervention patrimoniale éventuellement. Et puis la difficulté de prendre en compte les paysages au-delà des zones de monuments. Alors on a plusieurs contextes dans lesquels l'INA cherchait à protéger des contextes, éventuellement des villages ou des petites villes, etc. Et en fait, elle a du mal à intervenir en dehors du périmètre de la zone de monuments, puisqu'il y a peu de régulation des paysages. Et j'arrêterai ici pour cette petite présentation de la situation mexicaine. Alors Fabrice avait préparé quelques questions
Bon, t'as pas parlé en espagnol, mais t'as parlé vite quand même. Il y a certains détails que j'ai un petit peu zappés, mais bon. Peut-être que les questions que j'aurais, ce seraient des demandes aussi de précision sur notamment les relations État-collectivité. Tu as dit notamment qu'il y avait eu une sorte de transfert de la nation à la fédération. Donc ça veut dire que, en clair, c'est surtout les États fédérés qui ont les pouvoirs, ou la fédération qui garde l'essentiel des pouvoirs, et comment ça s'articule avec les protections qui peuvent être mises en place, donc soit au niveau de la fédération, soit au niveau des États fédérés. C'est-à-dire que dans une ville, quand il y a des éléments qui sont protégés en tant que tels, est-ce qu'ils sont doublement protégés par rapport au projet urbain? Est-ce qu'ils sont exclus des négociations urbaines, ou est-ce qu'ils sont vraiment soumis aux décisions urbaines locales? Donc c'est cette première précision, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une importance forte des promoteurs immobiliers, et que les mandats locaux étaient, et même régionaux des États fédérés, étaient assez brefs. Et donc la politique pouvait être remise en question assez rapidement. La deuxième question serait, dans le prolongement de ça, par rapport à Mexico, t'en as parlé à plusieurs reprises, c'est évidemment un cas spécifique, comme dans tous les pays, la capitale concentre les pouvoirs administratifs, mais aussi politique, symbolique, souvent un patrimoine très important. Tu l'as évoqué un petit peu avec ce plan et les commentaires, mais est-ce qu'il y a un régime spécifique pour Mexico dans lequel l'État fédéral, du coup, interviendrait beaucoup plus qu'ailleurs au Mexique? La troisième question, t'en as parlé un petit peu, notamment à la fin, sur la place des citoyens et des acteurs culturels et patrimoniaux locaux. Donc, tu as même suggéré que des fois, il pouvait y avoir des alliances avec l'INA par rapport à des projets urbains. Est-ce que au Mexique, les processus de consultation te semblent vraiment très très instaurés et avoir du poids sur les projets, ou bien c'est assez minime par rapport aux influences économiques et politiques?
Donc, j'essaie de répondre rapidement aux trois questions. Ce que je disais, c'est qu'en ce qui concerne la protection du patrimoine, la loi de 72 introduit une recentralisation et protège toute une série de monuments. Il n'en reste pas moins qu'il y a des lois, il peut y avoir des lois locales de protection du patrimoine qui définissent d'ailleurs ce qui souvent peut s'appeler monument typique, pour faire une sorte de différenciation avec les monuments dits nationaux, qui sont une sorte de monuments de second ordre, avec une protection locale par une loi du patrimoine au niveau des États, qui est néanmoins distincte de l'action des plans de développement urbain, qui, eux, sont cadrés par des lois de développement urbain des États fédérés, mais de la compétence des municipalités. Il y a là une très forte décentralisation de l'urbanisme, une centralisation du monument, mais avec la capacité, avec le maintien d'une... Enfin, une centralisation de l'action patrimoniale avec le maintien dans certaines zones en particulier celles qui avaient une forte tradition historique de protection, d'intervention sur l'image urbaine de monuments locaux, d'une certaine façon, et des plans qui cherchent à intervenir, enfin, qui le plus souvent prennent acte de ces protections et cherchent à intervenir essentiellement sur les espaces publics, sur l'image urbaine, sur les autres parties du centre qui ne sont pas elles-mêmes directement protégées. Donc il n'y a pas au Mexique d'ailleurs d'équivalent de périmètre des 500 mètres qu'on a vu présent en France, ou 500, alors 500 mètres en France, ou 500 pieds à... D'ailleurs, c'est, ce qui compte, c'était 500, c'est pas tellement la mesure, ou 500 pieds au Québec. Donc il n'y a pas d'équivalent, il y a l'idée des terrains adjacents, donc il y a une sorte de droit de regard sur les terrains adjacents des monuments, mais il n'y a pas d'équivalent en termes de territorialisation du patrimoine. Alors, en ce qui concerne la participation, est-ce que la consultation est très présente et effective au Mexique? Peut-être pas de la même façon où elle est présente au Québec. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est que les plans eux-mêmes, les exercices de planification, se veulent participatifs. Et se commencent tous, alors plus ou moins participatifs, mais le problème, c'est pas tellement qu'ils soient plus ou moins participatifs, c'est que le plus souvent, ils ne sont pas vraiment appliqués, hein, même lorsqu'ils sont vraiment participatifs, mais ils se présentent tous comme étant un moment de discussion sur le devenir des espaces patrimonialisé, puisqu'en fait, encore une fois, il y a un certain nombre de concentrations de problèmes urbains ou de questions urbaines qui se passent dans les centres-villes. Donc oui, il y a une sorte d'ouverture de débat sur le choix des espaces par l'intermédiaire des plans de développement urbain, mais ça ne veut pas dire que ces dispositifs soient particulièrement respectés. Mais en même temps, il y a effectivement une droit à la consultation, à l'audience publique, et puis l'idée que les plans doivent être... Et le deuxième élément en termes de participation, c'était cette idée que des instances de consultation, enfin intégrant les différents acteurs, mais le plus souvent y compris des acteurs associatifs, peuvent construire ces instances pérennes sur les centres pour une intervention, mais qui est le plus souvent une intervention du type amélioration urbaine, intervention sur l'espace public, programme d'amélioration des façades... mise en valeur culturelle du centre-ville.
Juste avant d'autres questions, à partir de l'exemple de Mexico,
est-ce que... Ah oui, j'ai pas répondu.
Ouais, est-ce qu'on voit une correspondance, parce que tu as commencé à dire qu'il y avait quand même une différence entre la réglementation et puis la pratique. Est-ce qu'on voit une correspondance entre les protections, l'intervention des organismes nationaux et les pratiques locales de développement urbain, ou est-ce que la ville arrive à passer outre en fait les prescriptions?
Alors à Mexico, la spécificité de Mexico, j'avais pas répondu à cette question-là. La spécificité de Mexico, c'est ça peut être l'ampleur le caractère symbolique du centre historique, l'ampleur des problèmes urbains, mais aussi une forme particulière de présence de l'administration et d'une sorte de police des activités, peut-être plus présente que dans un certain nombre d'autres villes. Ça pourrait être la spécificité de Mexico, le fait que c'est d'abord à Mexico que ces tendances d'institutionnalisation du centre historique se mettent en place, avant des villes de province, l'idée qu'elles ont été le plus loin possible avec cette autorité du centre historique dans lequel il y avait l'idée de nommer une sorte d'homme politique ou de manager du centre historique qui serait une sorte de référence sur toute une série de questions, y compris le fonctionnement des services urbains courants, mais en même temps qui assurerait le bon fonctionnement de l'espace de l'espace centre historique. Alors, est-ce que l'INA a la capacité d'être présente en province, en particulier dans les zones très 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 patrimonialisées? Est-ce qu'il est plus facile effectivement dans des villes de province de ne pas respecter un certain nombre de choses. Ça a pu être le cas, oui, par des sortes de collusions entre des acteurs politiques à des différents niveaux. Même lorsque, encore une fois, dans les trois cas qui avaient été pris comme le cadre d'expérimentation par l'Université nationale de Mexico, on avait des accords de tous les niveaux de gouvernement pour mettre en place un plan participatif local et qui ont pu ne pas être tombés totalement en désuétude, puisque même dans un cas, il y a eu un vote par une assemblée de l'État fédéré qui a complètement supprimé la possibilité d'un plan spécifique sur le centre historique. Donc, oui, la réponse pourrait être oui. Vincent ?
C'est la succession des deux interventions qui m'amène à poser ces questions-là, et c'est tout l'intérêt de la chose. J'ai l'impression, en t'écoutant, qu'on a une situation qui ne fait que exacerber, figer même, et creuser les écarts entre la ville avec valeur et avec une conception qui reste très liée finalement à la notion de monument historique. C'est la ville où il y a les monuments, et d'autre part la ville sans qualité. Donc tu me diras si cette lecture-là est excessive ou si je résume un petit peu le processus, alors qu'effectivement, côté québécois, on voit l'extension à la fois géographique, thématique, chronologique de la notion de patrimoine. Donc on a l'impression effectivement de deux situations assez contrastées de ce point de vue-là. L'autre question, elle est peut-être à côté de la plaque, mais parce que je connais très mal le Mexique, est-ce que la question justement du Mexique précolonial émerge dans cette question patrimoniale, parce que ces villes-là, certes, sont un produit de la colonisation, mais ne serait-ce qu'à Mexico-Tenochtitlan, on découvre de plus en plus d'ailleurs les traces de la ville antérieure. Et j'imagine qu'à l'échelle des aires urbaines ailleurs, on a aussi potentiellement cette question des traces amérindiennes. Voilà. Est-ce que ça, c'est un sujet, cette question du patrimoine précolonial dans le contexte urbain au Mexique?
C'est un sujet par l'ampleur effectivement de l'aspect archéologie. Et archéologie, une forme d'archéologie, on pourrait dire préventive, très présente sur toute une série de travaux. Il y a une sorte il n'y a pas de règle du type archéologie préventive, mais il y a une archéologie au moment des grands travaux. Très, 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 très présente. Sur les centres historiques, très spécifiquement sur cet aspect-là, il y a un cas très particulier qui est la mise à jour du Templo Mayor de Tenochtitlan qui se trouve juste à côté du Zócalo de la ville de Mexico, qui a été autorisé et décidé directement par un président de la République contre l'ensemble des autorités du patrimoine, puisque ça voulait dire détruire deux pâtés de maison de monuments protégés coloniaux pour mettre à jour les ruines du Templo Mayor, puisque la ville de Mexico est effectivement construite sur la ville de Tenochtitlan. Donc là, on est dans les années 80. La petite anecdote d'ailleurs raconte que ce président de la République revenait d'un voyage en Espagne dans lequel il avait fait une erreur fondamentale pour le Mexique, c'est qu'il avait été dans le village d'où était originaire sa famille et il s'était déclaré citoyen espagnol, il avait dit qu'il se sentait espagnol. Et alors, l'histoire des spécialistes du patrimoine raconte qu'il rentre à Mexico. Il y a une découverte archéologique importante qui atteste le Templo Mayor. Il décide tout seul, en passant par-dessus Elina, que le Templo Mayor allait être mis à jour dans un acte qui est un acte symbolique très fort, qui est un acte symbolique de dire je préfère le patrimoine, enfin je prends parti pour le patrimoine préhispanique sur le patrimoine hispanique. Alors que toute la tradition au Mexique comme ailleurs de protection du patrimoine, elle est justement de ne pas faire cela, c'est-à-dire d'éventuellement de trouver d'autres façons de mettre en valeur des découvertes archéologiques sans détruire des monuments du XVIe siècle qui se trouvaient juste à côté du Socalo. Donc il y a une polémique importante là qui marque cette question-là. Depuis cette polémique importante, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus, c'est-à-dire on est bien dans un contexte d'intervention qui est très fortement marqué par les positions qui sont très présentes au niveau international. Hein, d'ailleurs, le Mexique est très présent, a été très présent dans la construction du patrimoine mondial. Le Mexique était très présent, y compris d'ailleurs sur les spécialistes qui ont produit toute une série de normes internationales sur les questions de la restauration. Et donc, on était plutôt là sur une sorte de double jeu, hein, qui était celle de protéger la ville de Puebla, par exemple, ville de création coloniale, modèle de création coloniale, non pas parce qu'elle est un modèle particulier de ville de création coloniale dans lequel on accueillait un certain nombre de petits paysans, d'ailleurs, et pas forcément de grands hacenderos, mais parce qu'elle était un des lieux du départ de l'indépendance. Hein, donc avec toujours cette espèce de double jeu du patrimoine de la nation qui permet de construire une nation qui se présente comme syncrétique entre l'histoire et... Alors, il y a au Mexique de très nombreuses zones archéologiques dans la périphérie qui elles-mêmes sont soumises à différents types de législation avec éventuellement d'ailleurs des controverses entre le niveau local et le niveau national pour protéger ces zones archéologiques. Mais c'est une autre histoire. C'est peu présent en contexte urbain, me semble-t-il, même si symboliquement la protection des barrios, qui étaient les barrios indigènes, qui ensuite sont les quartiers populaires, avec des monuments qui ne sont pas les monuments du tracé hispanique, et a aussi un rôle symbolique important, et peut-être plus d'ailleurs à l'extérieur de Mexico qu'à Mexico, puisque à Mexico, les barrios indigènes ont été fortement modifiés au XIXe siècle.
Juste un petit un commentaire et une question, mais sur un des derniers outils que tu as évoqué, sur quelque part, je le résume comme ça, mais le transfert des droits à construire du centre protégé vers un quartier périphérique. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça pose tout un tas de questions. Et je pense pas que ça se fasse chez nous. Enfin, je parle sous le contrôle de ceux qui font, d'une part, et aussi de ce que nous savons les uns et les autres. Je dis pas que c'est une excellente solution, mais dans l'idée aussi de voir ce qui existe ailleurs, et dans l'idée que effectivement, dès qu'on est dans un espace protégé, bon, notre porte d'entrée, effectivement, c'est la planification urbaine, mais bon, de manière générale, un outil de protection du patrimoine, bon, on est quand même sur un niveau de servitude d'urbanisme ou de servitude d'utilité publique assez fort, donc qui restreint quand même les droits à construire, très souvent par exemple par le biais des hauteurs, par le biais des surfaces, enfin voilà, sans parler bien sûr après des matériaux, de la morphologie, du respect de l'intégrité du bâtiment. Voilà, alors après... avec Pascal de ce qu'on appelait avant les transferts de COS, par exemple, enfin, pour d'autres raisons. Mais je parle sous votre contrôle et je me dis, ça peut être aussi une façon d'amener des investisseurs dans le centre historique. Parce qu'il y a, comme Pascal Dubalet est parti, le travail l'a rappelé, j'imagine, mais il a attiré notre attention ce matin sur le fait que tous les enjeux financiers de cette conservation du patrimoine étaient majeurs. On parlait un peu de fiscalité, mais il parlait d'économie du patrimoine également. Et finalement, d'arriver à amener des investisseurs dans ces espaces protégés, tout en leur disant « Ah, mais néanmoins, justement, ça, ce sera assez contraint. » Donc, par contre, il y a un phénomène de vase communicant. Bon, voilà, sur le principe, je trouvais que c'était en tout cas un dispositif assez intéressant. Voilà, après, à manipuler avec beaucoup de précautions, j'imagine. Mais, et puis, encore une fois, ce n'est pas totalement... Enfin, il y a quelques dispositifs qui ont pu y ressembler à un moment. Et le simple fait aussi d'être aujourd'hui dans des constructions de qualité architecturale peut permettre justement un système de ce type-là, des dépassements de on va dire, de droit à construire. Et voilà. Je voulais juste qu'on revienne sur ça et en voyant ce que les uns et les autres pouvaient avoir à en dire, et toi-même, bien sûr.
Oui, on est dans un contexte, et effectivement, où la régulation dans le centre historique est pensée comme un frein à l'investissement. Et effectivement, dans un contexte où, certes, à Mexico, comme dans les plus grandes villes de province, il y a une revalorisation commerciale, et de nouveau, on a plutôt une revalorisation d'une partie du centre historique, mais en même temps, on n'a pas un retour au centre, y compris d'une grande partie des secteurs des affaires. Donc cette idée, effectivement, qu'il faut trouver des façons de transférer de la plus-value qui est accordée ailleurs. Alors ça renvoie aussi à toute une série de dispositifs qui sont présents en Amérique latine et en particulier au Brésil d'une façon généralisée. On en parlait tout à l'heure à Sao Paulo par exemple, qui visait à limiter très fortement l'ensemble de la possibilité de construire sur l'ensemble de la ville et à considérer que tous les droits de construire devraient être achetés dans une sorte de bourse qui devrait servir à construire à financer des infrastructures ou la politique sociale. Il y a en Amérique latine, et en particulier au Brésil, mais avec des impacts aussi au Mexique, une réflexion assez présente sur la réforme urbaine et sur la façon dont la réforme urbaine peut aller au service du fait de doter la collectivité de moyens d'intervention. Et sur cette idée de comment on fait pour transférer des plus-values qui sont apportées par la règle d'urbanisme, c'est quelque chose qui est très présent, y compris politiquement porté par certains groupes, ce qui me semble moins présent, enfin porté par certains spécialistes en France, mais me semble moins présent dans le débat. Alors, c'est néanmoins, encore une fois, très controversé, hein, puisque ça a été présenté aussi comme une façon de permettre justement d'aller plus loin que les limites de construction sur certains axes et de distribuer d'une façon un peu discrétionnaire des droits à construire supérieurs à des promoteurs qui étaient en demande dans des zones très valorisées et de doter ces situations-là d'une sorte de valeur positive. Hein, il était difficile d'être contre le transfert vers le centre historique qui lui-même avait des besoins et qui représentait etc. C'était quelque chose qui est moins présent. D'une certaine façon. Alors, il y a une certaine opacité, il y a eu quelques très belles réalisations, effectivement, dans le centre historique, ou des monuments publics, ou appartenant à des associations, ou appartenant à des fondations de banques, par exemple, ont pu être réhabilitées ou restaurées même d'une façon très, très exemplaire, grâce à des appuis transmis par ce type de système. Voilà. Alors, ça supposerait qu'il faut compenser la règle d'urbanisme, la limite patrimoniale, et qu'il y a un droit et qu'il y aurait un droit qui pèserait sur les immeubles. Ceci dit, est-ce qu'on fait des choses très différentes lorsqu'on offre des exemptions d'impôts très importantes dans le centre historique. Enfin, c'est différent, mais en même temps, on a bien cette idée qu'il faut quand, d'une certaine façon, qu'on compense ou qu'on aide le retour d'un certain nombre d'investisseurs.
Oui, d'une certaine façon, on peut faire le parallèle, mais on peut voir aussi qu'en France, tous les mécanismes de dépassement achetés, enfin, qui donnaient lieu à des compensations financières, les dépassements de COS, qu'on a connu une certaine période où les dépassements, qu'on appelait les déplacements des plafonds locaux de densité, le dépassement de PLD qui consistait à permettre aux constructeurs de faire un peu plus de densité à condition de payer quelque chose, alors non pas à ceux qui avaient moins de droits à construire, mais à l'administration. Tous ces mécanismes-là n'ont pas donné satisfaction et conduisaient à des effets pervers très compliqués à maîtriser. Donc j'imagine bien que ce dispositif ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il est très encadré, parce que d'une certaine façon, comme tu le disais, c'est une forme d'indemnisation des servitudes d'urbanisme. On ne peut pas construire au-delà de telle hauteur, donc on est indemnisé, mais une indemnisation non pas par la puissance publique, mais par un autre propriétaire privé. Donc c'est quand même, c'est pas évident d'introduire ça dans notre système juridique.
Ça a beaucoup de dérives, effectivement. Mmh. Ça n'existe pas du tout au Québec ?
Au Québec, non. On n'y a pas assez parce qu'aux États-Unis, dans les centres-villes, c'est le même problème. En fait, c'est les centres-villes désertés. Ben, plus aujourd'hui, mais dans les années 70, qu'on veut revaloriser, mais autrement, parce que le terrain vaut plus cher que le bâtiment sur le terrain. Donc il faut dire comment on fait pour aider à valoriser un bâtiment. Mais au Québec, on y a pensé, c'était une solution, mais non, on ne l'a pas fait. C'est ça, on ne l'a pas fait.
j'avais une petite question au niveau...
Oui.
Oh, excuse-moi.
Vous êtes sûr ? Merci, c'est gentil.
J'avais une question, c'était l'investissement qui m'avait fait penser, parce que je trouve que c'est une thématique qui touche pas mal de pays aujourd'hui, soit en Grèce, surtout Grèce continentale, en Venise, même à Lyon, on a des collègues ici de Lyon, cette histoire d'investissement étranger. Et donc, quand il y a des investisseurs étrangers qui s'installent dans un centre historique ou qui même deviennent propriétaires d'une rue entière, je pense que c'est la rue Grolet à Lyon, pas mal d'investissements coétiens, je crois. On a parlé à Pause Café à la Métropole Lyon une fois, ou des amis qui revenaient d'Athènes, par exemple, où ils ont dit que le centre historique, il y a maintenant une présence importante des commerçants chinois qui s'installent en Athènes, et donc il y a moins de commerçants lyonnais ou grecs, etc. Est-ce que vous trouvez aussi, si on essaie de faire venir l'investissement, qu'il y a une présence aujourd'hui des investisseurs étrangers d'abord, et deuxièmement, est-ce qu'il y a une volonté pour ces investisseurs étrangers à respecter les mêmes règles ou à même conscience du patrimoine vu qu'ils viennent d'un contexte ailleurs?
Les investisseurs étrangers dans le centre historique de Mexico me semblent relativement peu présent hein, sur cette idée qu'il y a peu d'attractivité pour les grands projets immobiliers. Donc on a plutôt des investisseurs locaux, en particulier quelqu'un qui s'appelle Carlos Slim, qui est présenté comme l'homme le plus riche du monde, qui est un Mexicain, qui a fait fortune dans la télécommunication et qui est quelqu'un qui vient du centre-ville de Mexico et qui a donc fait une fondation. Mais on retrouve en province cette idée d'intervention de fondations privées qui vont mettre en place, alors qui jouent souvent un double rôle, c'est-à-dire ils vont aider les pouvoirs publics à mettre en place des travaux sur les espaces publics, prendre en charge une partie de l'amélioration des espaces publics et aussi, en même temps, alors certains disent que c'est totalement lié, je ne sais pas, acheter massivement des biens. Donc c'est le cas de Carlos Slim à Mexico, c'était le cas d'une fondation qui était la fondation Jenkins à Puebla, qui a payé directement la réhabilitation des travaux du centre historique. Alors il n'y a pas de système d'exemption d'impôts pour des investissements sur les monuments. Par contre, il y a un système de fondation et d'intervention, enfin, un système général de fondation très incitatif pour des grandes sociétés qui peuvent en fait déduire une partie de leurs impôts, ce qu'elles donnent En fait, on est dans un cadre qui dépasse le système de la Fondation en France, qui ressemble peut-être à un système plutôt nord-américain. Donc ces grandes fondations sont très présentes, y compris d'ailleurs avec des rachats importants de rues, de création de nouveaux commerces. Et d'ailleurs, Carlos Slim avait essayé de faire à un moment de produire du logement dans le centre-ville et dans lequel il obligeait pratiquement une partie des gens qui travaillaient dans ces sociétés de venir habiter dans le centre-ville pour pousser à une sorte de gentrification. Alors, il obligeait, il donnait dans des bonnes conditions le fait de venir habiter dans le centre-ville. Donc, il y a des grands acteurs de l'investissement, mais qui sont peu étranger, je pense.
Sur les 10 centres historiques qui sont au patrimoine mondial au Mexique, y a-t-il un comportement un peu différent de la gestion des centres-villes? C'est une question, hein. Est-ce que le fait qu'il soit au patrimoine mondial a permis une meilleure intégration, par exemple, des habitants, de processus de concertation, a permis aussi la prise en compte du contexte historique, paysager? Est-ce qu'il y a un élargissement de la réflexion dans les sites qui sont au patrimoine mondial?
On est dans un contexte effectivement où le fait d'être inscrit au patrimoine mondial sur l'ensemble du périmètre du centre historique est quelque chose qui était considéré comme très positif localement, donc qui a permis peut-être que ce soit dans ces villes-là, en plus de la ville de Mexico, que se mettent d'abord en place ces instances de concertation, ces conseils du centre historique qui vont justement faire ce travail de relation entre les différents niveaux de pouvoir, avec cette idée qu'il y a néanmoins une autre instance de régulation, même si elle n'est pas totalement de régulation. Dans le cas de Puebla, d'ailleurs, j'ai vu il y a des habitants mobilisés contre un projet dans le centre historique de Puebla qui ont fait des manifestations à Paris devant le centre du patrimoine mondial, qui ont cherché d'avoir des positions. Enfin, le patrimoine mondial peut devenir un acteur dans des controverses locales et a permis là à bloquer, me semble-t-il, bloquer un projet en alliance d'ailleurs avec le personnel de l'INA. Oui, bien sûr.
Je propose, Sophie, à une dernière question, mais de faire une petite pause, justement.